Nous sommes dans la suite absolument évidente de l'exposé de José Neves, avec socialisme en acte, terre et campagne. Et nous allons entendre trois exposés avec les mêmes règles très précises et impératives de temps. Le premier étant celui de Sabine Planel, recomposition et devenir d'une petite institution rurale socialiste, le Chengo, tribunal populaire éthiopien. Sabine Planel est chercheuse à l'IRD.
Ça commence très bien. Alors, je vais donc vous parler du devenir institutionnel du projet socialiste en Éthiopie. Alors, 15 minutes, ça va m'amener à faire beaucoup de raccourcis. D'abord, pour vous dire que le socialisme éthiopien a un projet, mais il s'est nourri d'une grande diversité d'influences, traditions indigènes, pratiques maquisardes, théories occidentales et pensées de ses grands hommes, particulièrement de son précédent premier ministre, Meles Zenawi. Il entame depuis 2005-2010 une transition qualifiée de thermidorienne et se réinvente dans une libéralisation de façade en demeurant assez autoritaire et avec une petite modification de sa base électoraliste. Donc il relève surtout d'un socialisme d'État avec un goût prononcé que Gérard Prunier qualifie de liturgique pour le formalisme, pour la production institutionnelle et la multiplication des organes administratifs, des cellules, des bureaux, des comités et autres structures administratives ou politiques, demeure une technique de gouvernement de l'État parti qui est toujours très prisée. Donc la communication porte sur l'incarnation de ce projet dans les campagnes éthiopiennes, parce que le socialisme éthiopien a d'abord été un socialisme agraire, né du renversement de l'Empire en 1974. Nous parlerons d'une des principales institutions révolutionnaires qui ont été mises en place en 1975 à l'occasion de la réforme agraire et qui sont le Kébélé, la ferme d'État, la coopérative, la milice, l'organisation paysanne. Celle sur que nous présenterons aujourd'hui, c'est le Chango, le tribunal populaire. Alors, le Chango dont nous parlerons est une forme beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, pardon, qui est instituée par le régime actuel et qui désigne le Ferdebet Chango, le tribunal des affaires sociales. C'est un petit tribunal populaire composé de 4 à 6 juges en charge du règlement judiciaire des affaires familiales, des affaires de voisinage et particulièrement des affaires d'endettement paysan intracommunautaire. C'est en fait une institution relativement mineure que le parti au pouvoir actuellement, IPRDF, cherche à réinvestir. On verra donc comment les campagnes éthiopiennes constituent un réservoir institutionnel très riche, constitué d'institutions très hybrides, avec des fonctionnements codifiés, mais des pratiques très adaptatives, et on verra également les stratégies de réinvestissement dont elles sont l'objet. On essaiera donc très rapidement de procéder à un petit exercice de généalogie, ce qui fait que nous ne serons pas très linéaires du point de vue de la chronologie, encore moins de la géographie. On commencera autour d'un moment qui va se situer au début de la mise en œuvre du Derg en 1975 jusqu'à la Terreur rouge de 1977. Après, on fera un petit saut au début des années 80 dans le nord du pays, dans les fronts de libération armée, et on travaillera plus particulièrement la période contemporaine à partir de 2010-2011, et vous verrez qu'on passera largement sous silence la grande période d'entre-deux. Outre un matériau bibliographique, on exploitera surtout des enquêtes en cours conduites en 2015 dans une petite région du sud de l'Éthiopie, le Wolaita, dont vous avez une photo sous vos yeux. Alors, donc, première chose, Le projet idéologique, le projet socialiste éthiopien s'inspire surtout d'une lecture maoïste qui met l'accent sur le primat de la paysannerie et plus ou moins sur sa militarisation. Toutefois, évidemment, la compréhension du projet socialiste est loin d'être homogène. Elle est orientée et réorientée à loisir par différents points de tension, notamment entre deux courants, Mason et IPRP, sur lesquels je ne développerai absolument pas. Et c'est trop vite.
Non, il y avait un bruit en même temps.
D'accord. Donc une tension qui se cristallise en fait sur la nature des gouvernements locaux, plus ou moins civils ou plus ou moins militaires, et en fait dans la pratique, ils seront un petit peu les deux. Ce projet socialiste, qui est déjà très retravaillé, on va dire, répond ou a pour fonction de porter une parole paysanne. Alors, portée soit par des insurrections plus ou moins spontanées et plus ou moins paysannes, soit par des fronts de libération, et à ce moment-là, très travaillée, très reformalisée. Il n'empêche que cette parole paysanne porte sur des questions de gouvernance rurale, de sécurité foncière ou de sécurité plus générale. Elle est comprise comme une demande d'institution et c'est surtout, elle est mise en œuvre comme une demande d'institution. D'abord, par la mise en œuvre du Shengo. Alors, le Shengo, dans la période du DERG, c'est-à-dire du gouvernement socialiste, fonctionne sur une formule idéologique assez simple où on associe paysannerie et révolutionnaire. Donc, c'est le Shengo, ce tribunal populaire, est une institution majeure dans le projet d'encadrement socialiste. C'est un petit tribunal populaire adossé au Kébélé, au gouvernement, à la commune, qui rapproche la justice du peuple, qui remplace les tribunaux corrompus de l'ancien régime, qui servaient les intérêts des propriétaires fonciers, et qui gère toutes les affaires locales, y compris l'ensemble des conflits fonciers. Elle rend des jugements, exécute des sanctions, et particulièrement emprisonne. Peu à peu, elle est le lieu d'une justice expéditive, particulièrement à partir du début de la mise en œuvre de la Terreur rouge, et va avoir des pratiques assez coercitives au service de purges politiques. Elle produit alors des dérives clientélistes, autoritaires, discrétionnaires, etc., qui rappellent les griefs qui lui étaient reprochés dans la période impériale, et c'est alors que les Fronts de Libération proposent une autre formule institutionnelle qui associe, elle, la démocratie à la paysannerie et qu'on appelle le baïto. Alors le baïto du TPLF est une production très hybride qui est formalisée dans les territoires libérés du nord de l'Éthiopie à partir des années 1980. Il s'agit d'un système de cours, toujours, multijuridictionnel, qui s'inspire en fait d'une institution coutumière dont on ne sait pas grand-chose et donc anté-révolutionnaire qui s'appelait également le baïto et qui consistait en une forme de gouvernement, de conseil local. Donc elle a, le baïto du TPLF a en charge l'administration, les affaires économiques, les affaires sociales et c'est une institution qui opère à différents échelons, pas uniquement local. Le gouvernement de transition, qui prend le pouvoir en 1991, remobilise ce double héritage institutionnel et distingue le Verdebetshango, le tribunal des affaires sociales. En dépit d'une rupture idéologique très affirmée avec le socialisme, on observe en fait des pratiques qui changent assez peu. Le Verdebetshango est donc une institution qui est standardisée. C'est-à-dire, le tribunal constitue un conseil et non un mécanisme judiciaire, une procédure d'intermédiation, comme il en existe beaucoup dans les différentes campagnes, et pas uniquement éthiopiennes, et qui, pour le dire très vite, correspondent à des formes plus coutumières d'exercice de la justice. De même, il siège dans un bureau proche des lieux de pouvoir et plus simplement au milieu, enfin dans des espaces ruraux, sous des arbres, etc., comme ça pouvait l'être du temps du DERG. Il est fondé sur un découpage administratif et les redécoupages territoriaux qui sont assez nombreux aujourd'hui en Éthiopie, surtout en période préélectorale, entraîne mécaniquement des modifications dans la composition du tribunal. Enfin, il utilise des procédures extrêmement codifiées, très bureaucratisées, avec des présences de témoins, des productions d'écrits signés, tamponnés, des permanences dans des bureaux, avec des horaires, avec des délais, avec des convocations, etc. Donc tout un type de procédure qui vise principalement, en fait, à contractualiser des arrangements privés. Donc, il s'agit d'une institution d'interface qui possède un statut juridique intermédiaire entre une cour de la juridiction d'État et un tribunal administratif. En Éthiopie, il y a beaucoup d'institutions comme ça, un peu floues, on va dire. Donc, une institution d'interface en bas de l'appareil d'État. Vers le haut, il rapporte et envoie en appel aux juridictions supérieures. Il témoigne pour d'autres institutions publiques en rédigeant des attestations, des certificats, etc., ou des tribunaux administratifs. Enfin, dans l'autre sens, il est mobilisé par les populations locales dans le cadre de procédures de recours. C'est une institution qui est sous contrôle du parti, ne serait-ce que parce qu'elle est en grande proximité avec les bureaux du Kébélé, mais surtout parce qu'elle a des modes de désignation de ses juges qui sont très contrôlés. C'est aujourd'hui un petit tribunal qui gère les affaires sociales, les conflits de voisinage, l'endettement particulièrement, et notamment l'endettement entre privés pour des montants inférieurs à 500 beurres. Aujourd'hui, le Ferdebatchango ne gère plus les questions foncières ni les cas criminels et ses fonctions exécutives sont extrêmement réduites. En gros, il se contente de distribuer quelques rares amendes. Il entérine un processus de règlement judiciaire qui, en fait, souvent est réalisé dans le cadre des mécanismes coutumiers de justice. Il produit une autre légitimité pour les populations, une légitimité qui est en fait assez faible si on regarde le nombre d'affaires traitées par ce tribunal. Pour vous donner une idée, dans le cas des dettes, c'est 5 ou 6 cas de dettes par an qui sont traités par le tribunal. Toutes les autres sont traitées, on va dire, au sein des communautés. Ce Shango, ces acteurs, on n'aura pas le temps de les voir, tant pis. Aujourd'hui, il est remobilisé d'une façon assez intéressante dans le cas par le parti au pouvoir. D'abord, à la suite d'un changement de contexte, avec le tournant libéral engagé et surtout piloté par l'État à partir des années 2000, mais qui s'accuse en 2010 et 2011, avec la promulgation d'un plan de développement qui est résolument orienté vers le marché. Il se traduit par la fin de ce qu'on appelait les « proper policies », hérité de la période socialiste et se matérialise par un relatif désintérêt des populations pauvres. Désintérêt des populations pauvres dans les politiques publiques, mais pas désintérêt des populations pauvres dans le parti qui a des objectifs d'encartement toujours très élevés et qui passent par l'enregistrement des pauvres. Ces politiques plus libérales produisent, outre une paupérisation de la paysannerie, un phénomène d'endettement auprès du ministère de l'Agriculture, qui est très marqué et qui apparaît dans le cadre des politiques de modernisation agricole et notamment de la commercialisation de l'engrais. Du fait d'une gestion aujourd'hui partiellement décentralisée de cette dette publique, le poids de la dette paysanne pèse sur les administrations locales qui sont sommées par les administrations supérieures de devoir rembourser. Il devient donc urgent de trouver une solution pour résoudre ce problème de l'endettement paysan. Un nouveau jeu institutionnel s'opère alors, et c'est ce jeu-là qui convoque le Shango Ferdebet. Le ministère de l'Agriculture, jusqu'à présent en charge de cette question de la dette paysanne, est dessaisi de l'affaire, si je puis dire, et il est remplacé par une nouvelle agence, Homo Microfinance, que vous voyez là, beaucoup plus moderne et qui est une institution décentralisée avec des connexions très proches et assez floues avec le parti et ses antennes locales. Il intègre également donc le Ferdebet Shango avec la volonté d'étendre les compétences de ce petit tribunal des affaires sociales pour l'intégrer davantage dans l'appareil d'État. Il s'agirait, je parle au futur, de relever le seuil de gestion des dettes paysannes à 1000 beurres, un seuil qui existe déjà dans les villes et notamment à Addis Abeba, mais avec un environnement socio-économique qui est bien différent de celui des paysanneries rurales. Cette volonté de relever le montant minimum de la dette, en fait, s'inscrit dans une volonté d'intégrer donc davantage ce tribunal dans l'appareil d'État. Le projet demande que les témoins devant lesquels s'engagent les dettiers se portent garants pour les institutions. Il vise à transformer la dépendance sociale vis-à-vis des anciens et des fermiers qui siègent dans ce tribunal en une dépendance morale vis-à-vis des fermiers, transformer la dépendance formelle qui était inopérante à demander le remboursement en une dépendance morale. C'est un enjeu qui est très fort dans ce contexte de grande vulnérabilité. Quand les responsables du Shango s'expriment sur cette volonté de les faire participer au remboursement de la dette, ils sont généralement contre, en disant deux choses à peu près, à la fois qu'ils se considèrent comme une institution paysanne et qu'ils refusent d'être intégrés davantage dans l'appareil d'État, et à la fois qu'ils jouent du formalisme administratif pour résister à la pression qui leur est faite de s'impliquer dans une interface qui est assez coercitive. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi réinvestir aujourd'hui cette institution très hybride, un peu creuse, pour régler la question du devenir des paysans pauvres, en fait. Soit parce qu'on a là le signe d'un désintérêt toujours plus marqué pour la question paysanne, ou du moins, pas un désintérêt, mais une reformulation sur un segment émergent de la paysannerie, soit parce qu'il y a là la volonté d'extension de l'appareil d'État et le désir d'investir une institution très hybride et très proche des institutions coutumières pour pénétrer toujours un peu plus le corps social. Quoi qu'il en soit, on observe un héritage assez intéressant du socialisme qui demeure très institutionnel, très marqué par la dualité de l'État-parti, avec une nette prééminence du parti sur l'État. Voilà.
Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si on peut suivre le programme ou s'il faut inverser les deux intervenants suivants. C'est la question technique plutôt que celle. Donc alors peut-être qu'on va inverser, ce sera plus simple. Alors je donne tout de suite la parole à Alexis Roy qui travaille à l'Université Paris 1 et à l'IRD et qui donc présente une communication intitulée « Une paysannerie prédisposée au socialisme, point d'interrogation, le socialisme des ancêtres à l'épreuve de la politique agricole de Keïta au Mali ».
Merci. Alors on a déjà vu un petit peu dans les différentes communications. Les tenants d'un socialisme spécifiquement africain ont souvent prêté aux sociétés rurales précoloniales et parfois même coloniales une essence un peu collectiviste et mutualiste, ce que l'anthropologue malien Chaka Bagayoko a appelé le socialisme des ancêtres, d'où l'expression dans le titre de ma communication. Donc je vais dans un premier temps revenir sur les fondements de cette vision qui remonte à la période coloniale autour d'un courant qu'on a appelé l'agrarisme, que je vais présenter. On verra ensuite que cette lecture des sociétés rurales donc, a été réappropriée par une partie des leaders ouest-africains. Et enfin, on verra comment cette vision a été transposée dans la politique agricole du Mali de Modibo Keïta entre 60 et 68. Et enfin, pour terminer, on verra en partie pourquoi cette lecture peut-être, même probablement erronée des sociétés rurales, a amené à l'échec, en large partie en tout cas à l'échec, de la politique agricole du régime, au moins dans sa première partie. Alors, je commence en allant donc de l'agrarisme un peu au socialisme des ancêtres. Jusqu'à la fin, en gros, de la Première Guerre mondiale, quand on lit les écrits des spécialistes des questions coloniales en Afrique de l'Ouest, il est généralement dénié même la qualité de paysan ou d'agriculteur aux populations ouest-africaines. Sur un discours très techniciste et productiviste, on dénie ces qualités-là aux populations rurales. Ça, en gros, jusqu'à au moins la fin de la Première Guerre mondiale. Par la suite, on constate qu'il y a une vraie réhabilitation de la paysannerie ouest-africaine dans certains courants coloniaux, à partir d'un transfert donc, de l'agrarisme français vers les colonies de l'Afrique de l'Ouest. Donc, j'explique un peu ce qu'est ce courant agrariste. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avait émergé en France un courant à la fois idéologique, social et politique, qu'on a appelé l'agrarisme, et qui célébrait les valeurs du monde rural et se posait en défenseur de ses intérêts. Tout ça dans un contexte et en réaction à la fois à l'urbanisation croissante, aux révolutions industrielles, à l'essor du salariat, dans un processus qui visait donc à unifier un peu tous les ruraux face à ces changements, ces bouleversements socio-économiques. L'exode rural et l'agitation politique des ouvriers des villes, notamment en France, les différentes révolutions au XIXe, avaient suscité la crainte d'une fragmentation de la société française, face à laquelle la figure du paysan apparaissait alors comme un recours. Alors, un certain nombre de figures des débats qui ont marqué en France les questions coloniales dans l'entre-deux-guerres vont transposer leur penchant agrariste sur les populations ouest-africaines et en particulier sur les populations soudanaises. Je rappelle que le Mali, pendant la période coloniale, s'appelait le Soudan français. Alors, parmi ces personnalités, on trouve Georges Hardy, qui a été directeur de l'école coloniale au milieu des années 20. On trouve Robert de Lavignette, qui a été administrateur colonial en Afrique de l'Ouest, puis directeur de l'école nationale de la France d'outre-mer. Ou encore Henri Labouret, un soldat qui est devenu administrateur colonial, puis ethnologue. Leurs écrits témoignent chacun d'une certaine nostalgie d'une France rurale, dont ils sont d'ailleurs tous originaires, et dont ils voient dans la communauté paysanne villageoise ouest-africaine en quelque sorte le reflet. Je vous cite par exemple les propos d'Hubert Deschamps, administrateur qui officie au Sénégal dans les années 40, qui illustre bien ce phénomène. Il dit « Je m'épanouissais dans ces sociétés villageoises proches de mes origines, évadé d'une société limitée et du lugubre emprisonnement des villes à l'âge industriel, je retournais aux ancêtres. » Donc on a déjà le terme ancêtre en plus qui est là. Alors, voici un peu ce qui a été retenu, probablement de manière un peu caricaturale d'ailleurs, de la lecture des écrits des agraristes coloniaux et ce qui émerge comme figure de l'Africain qui serait authentique à travers ses écrits. En gros, l'Africain authentique est un paysan qui vit dans un village. Ce village constituerait son horizon politique et économique indépassable, quand même il y avait des empires partout en Afrique de l'Ouest. Et surtout, ces paysans évolueraient dans des communautés villageoises qui seraient totalement égalitaires et qui fonctionneraient sur la base de consensus permanent. Alors, plus encore, l'esprit mutualiste et de coopération y serait aussi la norme. Là aussi, pour illustrer cette idée, dans les conclusions d'un congrès sur les questions agricoles au Soudan dans les années 30, on peut lire à propos d'un organisme rural créé par l'administration, je cite, « L'adhésion aux sociétés indigènes de prévoyance est bien loin d'être une mesure coercitive pour l'indigène qui, par tradition, est collectiviste. » Donc là, qu'on le voit, dès les années 20 et 30, on trouve déjà ces idées dont on sait qu'après, elles sont réappropriées par des leaders ouest-africains. Je vais y venir. Justement, entre-temps, entre ces leaders ouest-africains et ces agraristes, je pense qu'on peut dire que cette vision va aussi être portée par certains colons socialistes et communistes. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Jean Suré-Canal, enseignant communiste en poste à Dakar après la Seconde Guerre mondiale, qui raconte dans un entretien avec Pascal Bianchini, ici présent, que quand il arrivait au Sénégal, il voulait justement faire une thèse sur la paysannerie au Sénégal. Et quand vous l'interrogez sur ses lectures, il vous répond « Le principal ouvrage dont je me souviens, c'est celui de Labouret, dont le titre devait être « Les paysans d'Afrique occidentale, un ouvrage fort intéressant ». Donc on voit que ces communistes en période coloniale ont lu les agraristes des années 20 et 30. Alors Jean Suré-Canal animait le groupe d'études communistes de Dakar, un cercle de réflexion et de formation qui émane du Parti communiste français. Il y avait des groupes d'études communistes un peu partout en Afrique de l'Ouest. Là aussi, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient dire dans ces formations aux jeunes futurs leaders africains qui y sont passés. C'est là en partie aussi que se construit l'idée que les sociétés ouest-africaines seraient des sociétés sans classe. On trouve ça déjà de manière très, très explicite dans les cours, notamment du fait de l'absence de la propriété privée de la terre. Alors on voit que ces lectures, elles s'inspirent en partie des réflexions des agraristes, tout en les prolongeant. En gros, si l'Afrique authentique, communautaire, paysanne et villageoise est collectiviste et mutualiste, et qu'elle ne connaît pas d'antagonisme de classe, en fait, elle est socialiste, quoi. On peut dire que la rencontre de l'agrarisme et du marxisme est constitutive du socialisme des ancêtres. Alors, quelques exemples maintenant de l'appropriation de cette vision par des responsables politiques africains. Je commence exprès par quelqu'un qui n'était pas communiste, Fili Dabo Sissoko, qui était, après la Seconde Guerre mondiale, député représentant les Soudanais à l'Assemblée nationale, qui écrit une lettre au ministre des colonies, très anticommuniste, mais il dit quand même dedans « Ma situation personnelle est communiste parce que la société indigène, telle qu'elle est organisée, n'est que communiste. » Là, on est en 1946. Plus tard, Senghor, ça c'est plus connu, président alors de l'éphémère Fédération du Mali, a déclaré en juillet 1959 « La société négro-africaine est une société collectiviste. Nous, plus loin, nous avons déjà réalisé le socialisme avant la présence européenne. » Alors, la même année, c'est Koutouré, alors président de la Guinée, déclarait « L'Afrique est essentiellement communocratique. » Alors, je ne dis pas qu'ils avaient tous les mêmes visions, hein, mais disons qu'on retrouve dans leurs différents discours des traits de ce socialisme des ancêtres de manière un peu systématique. Alors, dans cette vision, l'Afrique précoloniale se présentera un peu comme un archipel de villages proto-socialistes. Et le socialisme des ancêtres, là, permet, en ces périodes d'affirmation culturelle à l'aube des indépendances, de valoriser les sociétés rurales africaines qui ont été quand même beaucoup méprisées pendant la période coloniale, là, dans une forme de réappropriation, à mon avis, et de retournement du stigmate colonial. Alors, il faut bien rappeler qu'une large partie des représentations coloniales sur les ruraux s'opposait au courant agrariste que j'ai évoqué. Elle reposait plutôt sur des registres discursifs qui mettent en avant l'infériorité et l'arriération des ruraux. Et là, on voit que les tenants du socialisme des ancêtres y retournent un peu cette argumentation en valorisant l'Afrique rurale précoloniale et en affirmant en quelque sorte « On n'était pas les primitifs et les arriérés que vous avez décrits. Nos communautés villageoises avaient en fait l'esprit coopératif et mutualiste et on était en fait socialistes. » Alors, ça permet aussi de laisser penser que le socialisme n'est pas une idéologie importée, hein, puisqu'elle est l'essence même des sociétés et donc le socialisme s'impose logiquement comme projet de société. Donc porter cette vision à l'aube des indépendances, ça fait du socialisme un programme enraciné dans les cultures africaines, du passé faisons notre futur, de l'Afrique, du socialisme précolonial passons au socialisme postcolonial. Donc là, en quelque sorte, le socialisme permet de procéder à une double affirmation de soi. D'une part, grâce à la célébration des valeurs ancestrales qui sont prêtées à sa propre société, les sociétés rurales, et d'autre part, comme projet modernisateur qui constitue une rupture, un contre-modèle par rapport à celui qui a dominé, le colonisateur et son système capitaliste. Alors, on va voir un peu maintenant, j'en viens, comment ça s'est passé au Mali. Dans un premier temps, Modibo Keïta s'inscrivait totalement dans cette veine. Il déclarait, par exemple, au début des années 60, « Le Mali a opté pour une économie socialiste planifiée, d'une part en raison de nos traditions plusieurs fois séculaires de vie communautaire, et d'autre part parce que le socialisme seul permet de résoudre les problèmes économiques qui se posent à un jeune pays sans capitalisme autochtone. » En octobre 1958, le parti de Modibo Keïta, l'USRDA, se réunit en conférence pour élaborer ses résolutions sur le paysanat. Alors, ça faisait suite à un voyage de Modibo Keïta et de Seydou Badian Kouyaté, qui va bientôt être ministre de l'économie rurale et du plan, donc d'un voyage de ces deux personnalités en Israël pour faire un voyage de réflexion sur les questions d'orientation à donner à l'agriculture. Alors, le système coopératif israélien des kibbutz et des moshavs va inspirer les résolutions qui émanent de cette conférence, et qui vont largement définir la politique agricole une fois le pays indépendant. Et elles seront aussi, ces orientations, complétées par un plan quinquennal qui est élaboré par un jeune économiste qui va devenir célèbre, Samir Amin. Alors, Seydou Badian Kouyaté, donc ministre de l'économie rurale et du plan à l'indépendance, définissait ainsi les principes de sa politique, je cite. La communauté qui de tout temps a existé, malgré les éléments nocifs que le régime colonial a pu y introduire, doit être remise sur pied et au niveau du village, la coopérative intéressera ceux qui vivent ensemble, travaillent ensemble, sont liés par de puissants et très anciens liens. Le village sera donc la cellule de production et de commercialisation. En plus, la mutualité africaine, qui constitue un des meilleurs héritages que le passé ait légué, doit être codifiée. Donc là, on est encore en plein dans ce référent passé pour réorienter les politiques du présent et du futur. Donc l'État malien crée à partir de 1960 des coopératives au niveau villageois, les groupements ruraux de production et de secours mutuels, que je vais appeler groupements ruraux par commodité. Donc je ne peux pas décrire tout l'appareil politico-administratif qui se met en place à ce moment-là, pyramidal. Donc je vais me concentrer sur ces coopératives villageoises qui étaient quand même censées porter le succès de la politique agricole sur lesquelles elles reposaient. 5 minutes, je vais plus vite. On retrouve dans la loi toujours les mêmes principes. Le groupement rural, c'est un pour tous, tous pour un. Héritage des traditions est très dominant de l'héritage de l'humanisme africain. Bon, bref, j'avance. Sur la façon dont ces coopératives ont été appropriées, on peut mesurer l'écart entre ces représentations et les dynamiques politiques, économiques et sociales en zone rurale. Par exemple, les constats faits par l'anthropologue William Jones autour de la ville de Koutiala et au sud de Bamako en 64 témoignent du fait que ces coopératives ont souvent très mal fonctionné. Il observe notamment que ces groupements, ces coopératives, ont souvent été créés seulement pour les apparences et ont été délaissés. Il étudie 12 villages, 11 affirment avoir créé des coopératives, mais dans 5 cas, les villageois ne sont même pas en mesure de lui dire qui anime le groupement ou qui en est membre. Les groupements ruraux ont également pu connaître des problèmes de gestion, comme on s'en inquiétait le secrétaire général de l'USRDA. Je cite, l'USRDA, le parti au pouvoir, hein, « L'attention a été attirée à diverses reprises sur le cas de responsables de coopératives rurales et groupements ruraux ayant utilisé à des fins personnelles le capital de l'organisation coopérative. » Bon, des problèmes de gestion assez classiques dans l'histoire des coopératives agricoles en Afrique. Par ailleurs, plus important encore, le principe de travail en commun que les groupements ruraux sont censés porter n'a généralement pas été effectif. Alors ces groupements ruraux, ils avaient notamment en charge, ces coopératives, les champs collectifs, qui étaient un des traits importants des tentatives de socialisation de l'économie agraire. Alors là, dans tous les villages que Jones toujours a étudiés, on lui dit à chaque fois qu'il y a un champ collectif, mais dans un des villages, les villageois ne sont même pas capables de lui dire où se trouve ce champ collectif. Dans un autre village, il constate que le champ a été ensemencé, mais qu'il n'a pas bénéficié d'entretien. Et on voit plus généralement que, d'après le plan, il devait y avoir 100 000 hectares de champs collectifs élaborés à la fin du plan quinquennal. Et en fait, 5 ans après, on voit qu'il y a 19 000 hectares seulement de champs collectifs qui ont été réalisés. Les archives aussi du ministère de l'administration territoriale témoignent des résistances des sociétés rurales face à ces tentatives de collectivisation et de champs collectifs. Je cite un des rapports de sûreté, à Saint-Lancoroba par exemple, « Il a été mis en relief le mécontentement autour de l'exploitation des champs collectifs et la commercialisation des produits, considérés comme des charges lourdes. Dans un autre cercle, à Kangaba, il faut reconnaître que certains villages laissent encore trop à désirer dans le domaine du travail collectif en dépit des instructions données. Le chef adjoint de la zone, venu en tournée de contrôle, dû réagir contre ces carences de mobilisation en prononçant diverses peines. » Bon, je n'énumère pas plus longtemps que ça les difficultés qu'ont rencontrées les coopératives, mais manifestement, quand même, l'une des erreurs d'interprétation dans cette politique dans un premier temps est liée à ce socialisme des ancêtres qui voyait dans le village un ensemble homogène et donc la coopérative comme quelque chose qui serait facilement approprié par les paysans. L'appropriation des groupements ruraux illustre plutôt l'inverse, en fait, et le fait que le village est un ensemble qui est hiérarchisé sur différents critères, par exemple entre primo-arrivants, allochtones, gens de caste, anciens captifs, pour donner des exemples, ou alors tout simplement entre vieux, jeunes, entre hommes et femmes. Ça paraît évident, mais ce n'est pas comme ça que c'était pensé à l'origine. Et il y a aussi une réelle division du travail, une répartition explicite des pouvoirs et des responsabilités, et surtout de ceux qui peuvent y prétendre. Sur le plan des activités économiques, il faut aussi souligner que c'est pas le village qui est la collectivité de travail, c'est la famille élargie plutôt. Voilà, bon, bref, je suis désolé. Non, mais il faut dire quelque chose quand même de très important avant de conclure, je suis désolé. C'est qu'en 1968, il y a un séminaire sur le monde rural qui est organisé par l'État malien. Et donc, il y a un diagnostic qui est fait sur cette politique où ils ont pris la mesure de l'échec de ces tentatives de collectivisation, en soulignant le fait que Modibo Keïta le dit lui-même et le séminaire aussi, en fait, on a affaire à une société où il y a encore du féodalisme, du capitalisme et toutes sortes de distinctions et de hiérarchies, des commerçants et autres. Bref, bon, je suis obligé d'aller très vite. Et donc, en gros, on a un diagnostic inverse que celui du début des années 60 pour reconnaître en fait les tensions, les hiérarchies qui traversent le monde rural, et arrêter de dire que c'est une société qui est prédisposée au socialisme. À tel point qu'après, on tend finalement vers une sorte de socialisme scientifique. C'est ce qu'on trouve dans plusieurs écrits et déclarations. Mais manifestement, j'ai plus le temps. C'était trop long. Mais en tout cas, juste pour dire aussi que ça n'a pas marché, précisément parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'encadrement et que tous les organismes qui ont été mis en place ont été captés en fait, par la gérontocratie patriarcale qui a détourné donc, ces organismes ou les a neutralisés à son avantage et qui n'a pas eu donc, de vraie collectivisation agraire. Voilà. Merci.
Voilà, nous
nous écoutons maintenant Maria Benedita Basto sur le paradigme de la Terre chez Amilcar Cabral, une économie morale du sol et du bien commun comme critique épistémologique de l'Empire.
Bonjour.
Oui, merci. Amilcar Cabral, elle a surtout lu et discuté en tant que et à partir de ses écrits théoriques sur les luttes libération, en faisant justement ressortir de ses lectures la force culturelle de l'acte de libération. Mais la publication en 1988 Ensemble par l'Institut national des études et recherches de Guinée-Bissau et par l'Institut de recherche scientifique tropicale de Lisbonne, de l'ensemble de ses travaux scientifiques, a été un pas assez important justement qui a permis la connaissance systématisée dans notre champ d'intervention d'Amilcar Cabral, puisqu'il a écrit plus de 60 articles scientifiques. Et ce sont des articles qui ont comme base son travail au niveau de ce qu'il a fait, soit à l'école d'agronomie à Lisbonne et aussi après en Guinée-Bissau et en Angola. Alors, je rappelle très, très rapidement, en effet, je rappelle pas du tout. Bon, je commence déjà à couper là. Non, c'était un peu biographique, c'est juste pour dire bon qu'il a fait donc cette formation à l'école à l'université de Lisbonne et après il est parti en 52 en Guinée comme adjoint des services agricoles et forestiers. Il a donc commencé son travail en tant qu'ingénieur agricole dans le poste agricole de Pessoubé. Il a créé tout de suite un bulletin qui lui permettait de publier à la fois les résultats de ses travaux et en même temps servait de moyen de communication surtout avec les portugaise, les obligeant au moins à prendre connaissance de ces résultats. Après 55, il va avoir beaucoup de problèmes avec la police politique et il va encore essayer de trouver du travail à Lisbonne et finalement il partira dans les années 60 évidemment pour ce travail de lutte libération avec le PAIGC. Donc l'objectif serait aujourd'hui d'examiner quelques-uns de ces travaux afin de voir en quoi exactement l'appropriation stratégique du développementalisme, qui est un peu le cadre de l'époque, consistait. Comment Cabral va-t-il élaborer une critique scientifique du système colonial en créant un espace épistémique à la frontière entre savoir scientifique et savoir locaux? Et je pense qu'il faut envisager ici deux aspects. Premièrement, la dimension d'une utilisation stratégique et éthique du développement à travers la critique du système économique colonial et deuxièmement l'abandon partiel de ses prémices. Ce qui est ainsi en question, c'est le rejet du postulat d'un manque, d'une absence ou d'une incomplétude qui se traduirait par une insuffisance qui caractérisait, comme l'explique si bien Dépêche Jacques Abrart, la vision coloniale du monde décolonisé. Cabral applique au contraire un principe un peu rancérien d'une égalité des intelligences en mettant en avant l'idée que le savoir vernaculaire est le produit d'une démarche raisonnée et en adéquation avec le monde autant que le savoir scientifique des Occidentaux. Ou pour le dire autrement, en faisant référence au travail de Hans-Lars Stoller, l'épistémologie sous-jacente aux travaux de Cabral est basée sur le postulat que les considérations épistémiques, là je suis en train de citer Stoller, les considérations épistémiques ne sont pas ni transcendantales ni abstraites, mais elles sont justement insérées dans ce monde colonial et donc axées et c'est à l'intérieur de ce monde qu'elles sont pensées et projectées. Afin de mieux saisir le paradigme à partir duquel cette critique est produite, il nous faut d'abord saisir la nature de ce développementalisme colonial. Je partirai ici juste de l'idée que le... Ah, d'accord. Que le développementalisme de l'après-guerre qui est présent dans tous les empires coloniaux, y inclut le portugais, serait une expression de ce que Michel Foucault envisage comme une nouvelle forme de gouvernementalité, basée sur un rapport entre science et pratique de domination étatique qui a émergé au cours du XVIIIe siècle. Ce paradigme de savoir-pouvoir se retrouve déjà associé au processus de la mise en place des administrations coloniales du XIXe siècle. Je pense par exemple ici au bureau arabe fondé en 1844 en Algérie, qui sous l'empreinte de l'ethnologie, de l'anthropologie ou de la raciologie ont comme fonction de renseigner l'administration coloniale sur les politiques à entreprendre envers les indigènes. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt l'intensification du paradigme à partir des années 1980, quand le pacte de la Société des Nations stipule dans son article 22 que les puissances mandataires auraient une mission sacrée de civilisation et de devoir d'œuvrer au développement des colonies. Selon Frederick Cooper et Randall Packard, cette rationalisation du projet colonial réunit un ensemble de politiques interventionnistes et le financement métropolitain avec l'objectif explicite d'augmenter la qualité de vie. Elle est étroitement liée à la promotion de la recherche scientifique, de l'expertise, de l'organisation des recensements, de l'établissement de programmes dans les domaines de santé, de l'agriculture ou de la construction des infrastructures. Les revendications décolonisées et la pression des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale va effectivement stimuler davantage ces initiatives. En jeu est maintenant non seulement la productivité des colonies, mais surtout la légitimation du maintien des colonies. Ajoutons que le développementalisme est souvent moins traduit par des actions concrètes sur le terrain que par une simple transformation des discours politiques. Pour ce qui concerne l'agronomie, celle-ci elle descend en ligne directe des jardins botaniques qui ont été établis aux métropoles dès le XIXe siècle et qui seront en colonie associées à un réseau de jardins d'essai où seront tentés essayer des acclimatisations des espèces. Elle gagnera par la suite du poids, à la fois pour augmenter la productivité des colonies et pour trouver des solutions face aux problèmes environnementaux provoqués par les monocultures de l'économie coloniale. La responsabilité pour l'érosion des sols et les crises de famine récurrentes est alors souvent attribuée aux indigènes, qui sont accusés d'incurie et même de dégradation de la nature, alors que les colonisateurs proposeraient des méthodes modernes et rationnelles. À la fin des années 80, quand Amílcar Cabral commence à rédiger plusieurs articles sur le problème d'érosion des sols au Cap-Vert, c'est justement la famine. Et donc là, je voulais vous montrer... une des revues Cabral a commencé à écrire quelques articles. Là, on voit le sommaire et on voit justement l'ingénieur agricole Cabral et un de ses articles. Donc, à la fin des années 80, quand Amílcar Cabral commence à rédiger plusieurs articles sur le problème d'érosion des sols au Cap-Vert, c'est justement la famine et l'érosion qui sont en question. Et le langage utilisé dans son plaidoyer rappelle bien les termes foucauldiens du pouvoir régulateur. Dans algumas considerações acerca de chuvas, c'est-à-dire quelques considérations à propos des pluies au Cap-Vert, en parlant de l'érosion produite par les pluies torrentielles qui ont mis fin à des années de sécheresse, Cabral dit que même sans la protection nécessaire du sol et la bonne utilisation des eaux, la pluie permet maintenant une irrigation. Et il faut donc déterminer ce qu'il y a à faire afin de trouver le bon équilibre à la réalisation d'une vie correcte. Le lien entre science empirique et action publique est bien présent chez Cabral. Et aussi, chez lui, on peut trouver ce qu'on pourrait appeler une économie politique ou ce que Edouard Pablo d'une économie morale, c'est-à-dire, et je cite, une solide et traditionnelle compréhension à propos des normes et obligations sociales, des fonctions économiques inhérentes aux différents secteurs de la communauté. L'orientation éthique de Cabral est bien résumée par un principe qu'il énonce dans son premier article d'une série de 5 articles intitulés « Une défense de terre, en défense de la terre », paru entre 1949 et 1952. Il dit « La première mesure qui s'impose, c'est la défense de l'homme. » Et dans cette défense de l'homme, dans cette défense d'une vie digne, pour Cabral, la chose la plus importante est la défense de la terre sous forme d'un combat contre un problème gravissime, l'érosion du sol. Comme il dit dans l'introduction de son mémoire de fin d'études, défendre la terre est défendre l'homme. Si dans les textes sur le Cap-Vert, Cabral semble alors s'inscrire dans un régime basé sur le partage entre ceux qui possèdent la connaissance et ceux qui ont besoin de leur explication, ses publications sur la Guinée mettent en avant l'importance des savoirs populaires et de l'économie morale que s'y trouvent associés. Nous pouvons alors dire ici que Cabral défait la monopolisation du lien entre savoir et vérité, État et science. Contre la grande séparation entre ceux qui raisonnent et ceux qui seraient dans l'irrationalité et qui dépendent du pouvoir pour être emmenés à la raison, Cabral défend la présence d'une raison économique vernaculaire. Je pense que la sensibilité dont Cabral fait preuve à l'égard des savoirs vernaculaires et leur base matérielle est une conséquence directe d'une méthode de travail pour laquelle l'expérience vécue est fondamentale. Par exemple, quand il critique les avocats de la mécanisation de l'agriculture en Guinée, Cabral observe que leur perspective n'a pas les pieds appuyés sur la terre, c'est-à-dire qu'elle ne s'en sert pas dans la connaissance concrète du milieu, et elle ignore l'influence du facteur économique et social dans le problème de la mécanisation de l'agriculture. À force d'être tournée vers l'expérience, le savoir d'agronome de Cabral est donc un savoir interdisciplinaire ou transdisciplinaire qui cherche à intégrer tous les aspects du rapport entre l'homme et la terre, le régime de propriété, les formes d'exploitation de la terre, les systèmes culturels et pratiques de la culture. Et surtout, en dernière instance, tous ces facteurs sont liés à la façon dont on peut obtenir et partager les richesses produites par le collectif. Cela implique aussi une grande ouverture sur le plan méthodologique. Par exemple, dans son recensement sur l'agriculture de la Guinée, Cabral travaille à la fois sur les données quantitatives et les éléments qualitatifs obtenus lors des enquêtes en profondeur dans un échantillon de village. Au Cap-Vert, il propose de compenser l'absence des données statistiques sur la productivité agricole du passé par une enquête parmi les individus expérimentés et qui ont vécu pendant une période de temps, de façon à ce qu'on peut créer une comparaison. Donc, empiricisme et ouverture méthodologique, prise en compte des savoirs locaux, tous ces éléments se traduisent par le fait que Cabral est convaincu de la nécessité de transformation sans adhérer à une idéologie productiviste. Contre le binarisme des sociétés, peut-être que là, je ne pourrais plus lire. Et bon, il y aura beaucoup d'autres exemples, notamment ce qu'il va faire avec cette idée d'agriculture nomade, agriculture itinérante, comment il va défendre justement cette agriculture face aux idées des experts occidentaux qu'il a trouvé quelque chose qui n'était pas de l'ordre d'une modernisation. Alors, concluons, j'ai essayé de démontrer que pour comprendre la contribution de Cabral à une critique épistémique du savoir colonial, son travail d'agronome est fondamental. Cabral travaille à une époque où le paradigme développementaliste est en plein essor, et je pense qu'il est important de voir comment sa position s'inscrit dans le rapport entre savoir scientifique et gouvernementalité moderne décrite par Foucault. C'est à partir de ce positionnement que nous pouvons comprendre les caractéristiques d'une critique éthique et épistémique qui trouve les conditions pour son élaboration à la frontière du savoir dominant, pour reprendre un concept de Mignolo. Ce qui est en question chez Cabral n'est pas la gestion par l'État d'un problème selon des critères du vrai ou du faux, mais la question de la légitimité de ces politiques en jonction avec la volonté des gouvernés. En ce sens, la défense de l'homme à travers la défense de la terre, postulée par Cabral, renvoie à l'idée d'un bien commun présente à l'intérieur d'une économie morale. Cette approche éthique lui permet d'envisager les problèmes dans leur globalité et de démontrer comment les problèmes comme la sous-production ou l'érosion des sols, qui pourraient être considérés comme simplement techniques, renvoie à des options politiques, des positions décolonisées dans leurs terres et des produits de leur travail, destruction de l'environnement à cause d'un productivisme visant la maximisation des produits. s'intéresser à la façon dont les questions économiques s'articulent avec les pratiques et valeurs présentes à l'intérieur d'une société ouvre chez Cabral la voie vers une critique épistémique qui déplace ce que Rancière appelait un certain partage d'où sensible. Je peux aussi... Dans ce partage, j'avance. Bah, je termine. Donc, je dirais, en effet, on assiste ici à un passage entre, finalement que le travail agronome de Cabral ne peut donc pas être considéré comme une simple phase de sa vie qui préparait ce qui était véritablement important, son entrée dans la lutte armée.
Alors, je vais peut-être commencer par ouvrir la discussion, puisque je suis la plus éloignée de ces sujets de recherche qui sont pour moi très exotiques, à la fois parce que je ne travaille pas sur l'Afrique, mais en plus parce que je ne travaille pas sur le monde paysan. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de résonance entre vos trois communications qui, chacune à leur façon, étudient comment les élites, les intellectuels, les partis socialistes pensent le monde paysan et comment ils tentent de l'organiser. Évidemment, cette question paysanne est un enjeu récurrent dans l'histoire des mouvements socialistes et communistes en Europe. Elle est aussi un enjeu récurrent dans l'histoire du socialisme réel. Elle a pris une importance très forte dans l'histoire de l'Union soviétique. Mais on voit, en vous écoutant, qu'elle prend quand même des formes spécifiques en Afrique. J'ai trouvé la communication d'Alexis Roy sur comment l'agrarisme était approprié par les leaders africains très intéressante, puisqu'elle montre qu'en Europe, le monde paysan est plutôt vu comme profondément anti-moderne et traditionnaliste. Et là, on voit comment cette tradition est intégrée à cette vision traditionnaliste du monde paysan est intégrée dans un projet de modernité socialiste. Et donc, c'est une des originalités de ce socialisme africain. Alors, je trouvais également que le grand intérêt de vos communications était de présenter cette question paysanne à la fois dans les débats idéologiques, donc au niveau idéologique et théorique, mais aussi comme ancrée dans des préoccupations pratiques. Et donc là, le monde rural et la question paysanne apparaît comme un moyen et une entrée pour articuler l'analyse des idéologies et l'analyse des pratiques, ou en tout cas l'idéologie en pratique. Et je trouvais que ça avait beaucoup aussi d'écho avec les premières séances de tout à l'heure. Alors, peut-être une des questions qui traverse les trois communications et sur laquelle je voulais vous interroger, c'est celle finalement du degré et des formes d'adhésion du monde rural au socialisme africain. Alors, c'est une question qui est abordée sous des angles différents selon vos approches, soit par le travail d'encadrement qui est mené pour encadrer et inciter le monde rural à se rallier et à adhérer au projet socialiste modernisateur, ou bien cette question est aussi abordée à travers le travail de mobilisation et de définition idéologique pour mobiliser les paysans. Alors moi, j'aurais une série de questions sur cette grande question. Alors, je m'excuse, mes questions sont sans doute très naïves, puisque je connais très 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 mal ce terrain. Alors, une première question, elle renvoie à l'approche prosopographique et biographique des représentants et des élites socialistes africaines, puisque j'avais l'impression, en vous écoutant tout à l'heure ce matin, que ces élites étaient quand même plutôt issues d'un milieu urbain, elles étaient très intellectuelles et très aussi liées à l'Occident, via l'exil ou les formations qu'ils peuvent suivre en Occident. Et donc, je me demandais quel était le rapport de ces élites socialistes africaines au monde paysan. Est-ce que certaines fractions de ces élites ont quand même des comptes, sont issues de ce monde rural? Comment leur formation peut les amener à rencontrer le peuple? Est-ce qu'on a des témoignages sur cette rencontre avec le monde paysan? Et puis, est-ce que dans les mouvements socialistes africains, il y a eu un effort pour recruter et promouvoir au niveau du parti ou du mouvement des militants issus de ce monde paysan? Ensuite, je voulais reprendre quand même la question qui avait été posée tout à l'heure par Johanna Siméan sur comment les élites socialistes, qui sont donc très très engagées dans les débats théoriques, comment, une fois qu'elles sont confrontées au monde paysan, comment tentent-elles de traduire, de convertir, de transmettre leurs idées, dans quelle langue, avec quelle forme culturelle, est-ce qu'elles ont recours donc à d'autres formes culturelles que des pamphlets, etc. Alors, troisième question, c'est sur le succès de ce travail de mobilisation du monde paysan. Dans quelle mesure le mouvement socialiste africain a-t-il su trouver une base sociale dans ces milieux ? Est-ce qu'il y avait finalement un degré assez fort d'adhésion, ou plutôt des formes de réaction et d'opposition ? Alors, bon, certaines communications donnaient des pistes de réponse, mais... Ça m'amène à ma dernière question, qui est que comment cette réaction et cette adhésion du monde paysan au projet socialiste a joué sur les redéfinitions idéologiques, les redéfinitions des programmes politiques des mouvements socialistes africains. Comment cette réaction du monde paysan explique certaines évolutions du régime, les dérives libérales, ouais, dérives autoritaires ou les tournants libérales. Comment la réaction du monde paysan joue dans ces évolutions là. Voilà. Je m'arrête là. Je me doute.
Il y a déjà beaucoup de choses.
D'accord, ça suffit.
Il y a déjà beaucoup de choses.
Je rajouterai une ou deux éventuellement si j'ai le temps. Mais
c'est pas... Bon, je me lance. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Sur la degré des formes, enfin, sur les degrés et formes d'adhésion au socialisme des sociétés rurales. Je dirais que le régime socialiste a manqué de temps et de moyens pour, à mon avis, faire un réel travail de sensibilisation et de diffusion auprès des sociétés rurales de ce qu'était le socialisme. On dit souvent qu'il n'a pas été très bien compris dans les sociétés rurales maliennes à partir de différentes formes de témoignages. Et puis aussi du fait que certaines réformes mises en place ont pu être perçues comme des continuités de les politiques agricoles coloniales. Je pense notamment, là j'ai parlé des coopératives. Bon, il y a eu un renouveau coopératif quand même au moment des indépendances, mais la structure supérieure, les sociétés mutuelles de développement rural, elles étaient de création coloniale et elles ont été maintenues. Les champs collectifs, certains ruraux ont pu interpréter ça comme une continuité de ce qu'on appelait le champ du commandant, hein, le champ mis en place par l'administration coloniale, là où pendant le cadre du travail forcé. Ensuite, ça répond un peu aussi à la deuxième question entre élite urbaine intellectuelle et quel ancrage dans le monde paysan. Bon, au Mali, à l'indépendance, très forte majorité de ruraux, hein, les urbains, c'est quelques pourcents, à mon avis, de la population. La fracture, elle aussi pas mal, peut-être plutôt entre lettrés et analphabètes. Là, on a 6% de gens qui sont alphabétisés à l'indépendance. En revanche, ils ont forcément... Alors, Modibo Keïta, lui, avait l'originalité d'être né à Bamako et d'être fils de fonctionnaires. Mais tout de même, une bonne partie des leaders étaient fils de gens issus du monde rural. Et même la ville de Bamako, l'agriculture n'était pas absente de la ville de Bamako. Il y avait des champs en ville. Donc je pense qu'il n'y a pas de fracture très, très forte entre les deux. Est-ce qu'il y avait des militants issus du monde paysan? Alors, pendant la période coloniale, entre 45 et 60, il y a deux syndicats paysans qui ont été créés au Soudan, enfin au Mali. L'un à l'office du Niger et puis l'autre autour de Bamako. Après, il faudrait creuser un peu sur le profil de ces paysans. Je pense que le syndicat des agriculteurs du Soudan, c'était plutôt des anciens fonctionnaires reconvertis à la terre et qui ont créé un syndicat. Donc voilà, mes questions à creuser. Je suis obligé d'aller un peu vite. Hein. Et sur la base sociale, est-ce qu'il y a une adhésion? En tout cas, vous m'avez demandé s'il y avait une redéfinition en fonction des réactions du monde paysan. C'est ce que j'ai pas eu le temps de dire. Mais face à l'échec de première partie du plan quinquennal et des premières orientations de ce plan quinquennal, il a été décidé qu'il fallait s'attaquer aux ennemis des tentatives d'implantation du socialisme dans le monde rural, et donc aux féodaux, c'est dit très explicitement dans le séminaire. Hein. Donc quand j'ai parlé de l'expression gérontopatriarcale, elle y est. Hein. Les féodaux et les religieux aussi liés, et les riches paysans. Quoi. Il faut s'appuyer sur les classes opprimées, les groupes opprimés que sont les femmes et les jeunes. C'est dit très explicitement. Enfin bref, des réorientations et des prises en compte de ces échecs dès 68. Mais après, il y a un coup d'État fin 68, donc il n'y a pas de suite à cette histoire. Voilà.
J'y vais, je reprends, je continue. Donc... À nouveau, l'adhésion des populations rurales au socialisme, c'est C'est oui et non à la fois. Ça dépend énormément des contextes, bien entendu. Dans l'ensemble, en caricaturant un peu, le socialisme pour les paysans, c'est la réforme agraire. Donc ça, donner de la terre, effectivement, ça parle beaucoup. Et généralement, c'est plutôt bien reçu, à l'exception de quelques segments de la population. Maintenant, très rapidement, toutes ces petites institutions révolutionnaires, dont les plus marquantes sont la coopérative, le Kébélé, etc., deviennent et sont perçues très rapidement comme des institutions d'encadrement, de contrôle, de formatage à travers des campagnes d'éducation. Et donc l'adhésion au projet socialiste, de fait, s'éloigne un petit peu. D'autant plus que les politiques de développement qui sont promises par les gouvernements et puis par contenues dans l'idéologie socialiste ne tiennent pas leurs promesses, et ce, assez rapidement. Même pendant la période socialiste, la paysannerie est très rapidement confrontée à des périodes de famine, etc., qui, de fait, amoindrissent les bénéfices de la redistribution foncière. Et dès lors, la réforme agraire perd un petit peu de sa capacité à rallier les populations rurales. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en Éthiopie, la légitimité politique se fonde, qu'elle soit socialiste ou qu'elle soit même libérale ou autre, sur une adhésion de la paysannerie au projet qui va être défendu par les gouvernements. Et donc on observe une volonté de légitimer, de réécrire, d'inventer des figures ou des traditions, un peu dans la veine de ce que tu disais, qui sont pas propres au socialisme, mais qu'on verra aussi dans les fronts de libération armée qui veulent renverser justement ces gouvernements-là, ou même beaucoup plus récemment. Donc il y a véritablement une espèce de rhétorique paysanne, de légitimité paysanne qui doit, qu'on cherche à créer. Les représentants de ces institutions ou de ces idéologies sont chargés de convertir les paysans, et ben là, ça reste pratiqué d'une façon très éthiopienne, très liturgique, hein, c'est-à-dire c'est très standardisé, il y a un effort qui est assez formel, assez plaqué, de produire des réponses adaptées aux situations locales qui sont encore une fois très diversifiées en termes de codification, de pratiques qui après vont être plus ou moins ethnicisées, etc., etc. Mais donc l'effort de répondre véritablement aux attentes locales de la paysannerie est très faible. La paysannerie reste perçue comme une classe paysanne qui, dès qu'on rentre un peu plus dans le corps social, n'a aucune consistance. En tant que classe uniforme, hein, bien entendu.
On a l'impression qu'il y a une rhétorique ahurissante oui. Qui occupe le terrain en Éthiopie.
Oui, oui, c'est ça. C'est une rhétorique.
Ça me rappelle des choses.
Dans le cas de ce qu'a pensé et fait Cabral, bon, déjà la question elle se pose un peu autrement. D'une part, évidemment, la confrontation avec la question socialiste elle se pose d'emblée, puisque Cabral est un des grands théoriciens des luttes libération. Et c'est justement tous ces écrits et toute cette pratique en tant que leader d'un mouvement de libération qui atteste de son socialisme. Mais la question qui m'intéressait ici, c'était justement de pouvoir montrer une autre partie de Cabral, et surtout de la montrer non pas comme une phase ou à la limite comme le moment où qui peut justifier pourquoi Cabral est un leader un petit peu différent, c'est que finalement il a fait des recensements et donc il a un peu connu le terrain. Alors je pense que la chose elle est beaucoup plus profonde et plus intéressante parce que elle pose d'emblée la répartition entre pouvoir et savoir, que ce soit d'un point de vue du régime politique qui est le colonialisme, mais aussi de ce qu'on fait quand on est en leader d'une lutte libération. Et il faut aussi rajouter que ces luttes de libération, elles sont assez tardives, puisque on est dans les années 60 et on va encore... le moment de l'indépendance de la Guinée sera en 74. Donc ce sont des luttes qui finalement sont dans un contexte mondial un petit peu différent. C'est pour ça que on peut parler de ce développementalisme et de cette phase un peu différente aussi, disons notamment par rapport à ce que l'ONU elle pense que doivent faire les experts dans ces territoires. Et d'autre part. Je crois que dans ce travail de Cabral qui me paraît très très important, il me paraît justement très important parce que il est important, disons, d'un point de vue en tant que chercheuse, mais il est aussi important pour connaître aussi la personnalité qu'a été Cabral, et parce que avec lui on a cette opportunité d'avoir quelqu'un qui est en même temps qui maîtrise en même temps un ensemble de savoirs, des théories, mais qui est sur le terrain et qui est sur le terrain à la fois comme quelqu'un qui comprend déjà qu'il faut entamer une lutte de libération, mais qui est sur le terrain avant tout en train de faire des expériences, parce qu'il y a un côté vraiment très expérimental dans tout ce qu'il va faire. Quand il arrive en Guinée, il va essayer d'apprendre et de partir de ce contact avec les populations pour penser l'agriculture, et penser l'agriculture comme dans cette dimension sociologique, anthropologique, économique de ce qui peut être le début d'une nouvelle société. Donc c'est cette pensée, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de cette façon d'une économie morale, cette façon d'établir des différents partages en créant en partant de ses propres expériences et des savoirs qu'il reprend de toutes ces personnes. Et dans ce sens, disons que la paysannerie qu'on peut trouver dans ces travaux, c'est une paysannerie en acte. Non, c'est disons c'est cette voix et cette action directe de la paysannerie et la confrontation entre ce qu'il a appris à l'école et ce qu'il voit là, et comment cette distribution des terres et distribution donc des espaces correspond à une distribution des voix et des pouvoirs. Donc c'est tout ça qui ressort dans juste alors pour fermer la parenthèse, c'est que cette façon d'être très expérimentale de faire de Cabral, elle avait déjà commencé au Portugal, parce qu'il travaillait dans la région d'Alentejo, qui est une région très précise. Donc il a fait sa maîtrise sur une ville qui par hasard s'appelle Cuba. Mais qui est vraiment un village très beau en plus là de l'Alentejo, avec des forts problèmes d'érosion du sol. Et donc ça aussi, ça permet cette espèce de continuité entre une politique salazariste par rapport à ces sols de la région la plus pauvre du Portugal, et justement une région latifondière où les problèmes des paysans se posent d'une façon très concrète et très précise, et puis à prévoir ce qu'il va trouver en Angola et surtout en Guinée.
Alors, en fait, on a un peu de temps. Hein. On a jusqu'à 18h. Donc, le bus vient à 18h nous chercher. Toi, t'as pas jusqu'à 18h. D'accord. Mais voilà, mais donc, c'est François, si vous voulez dire un petit mot aussi, n'hésitez pas.
Un petit mot, c'est qu'au fond, on a là une utopie. Et que cette utopie présente un grand intérêt, même si elle nous apparaît quelque peu aberrante par les temps qui courent, évidemment, et qu'ont concouru à l'élaboration de cette utopie des milieux très variés, en fait. Les jeunes dirigeants qui rentrent, par exemple, au Mali, j'aurais tendance à penser qu'ils sont franchement très éloignés de la terre, pour la raison suivante, c'est qu'ils ont fait de longues études à l'extérieur et que ces études, ils les ont faites en milieu urbain. Je pense aussi aux petits séminaires dans les zones
catholique où les enfants, à partir de l'âge de 7 ans, se trouvaient coupés de leur famille et coupés du monde rural. Et donc, en fait, il y a des dirigeants souvent ou des milieux dirigeants qui ont, à mon avis, une faible idée de ce qu'est réellement le monde rural. Le sommet, je ne sais pas si c'est l'Éthiopie, mais Madagascar, c'est un cas absolument sidérant, avec une capitale qui existe depuis le XVIIIe siècle et des manières de faire citadines qui sont extrêmement tranchées par rapport aux manières rurales, un fossé très important. Donc, disons qu'un certain nombre des dirigeants qui ont affaire à une population qui est à peu près de 80% ou à 80% rurale, ils ont à franchir un fossé et à trouver un langage. Ils ont le sentiment qu'il faut mettre à tout prix les gens au travail. Et ça, c'est un petit peu, au fond, la modernisation par la tradition qui va s'entamer dans plusieurs expériences, dont celle de Tanzanie, qui est particulièrement intéressante de ce point de vue. Hein. Et donc, ce que les trois intervenants ont livré là peut s'étendre à des zones plus importantes et à d'autres expériences. Il y a tout un comparatisme qu'on pourrait lancer sur ces thèmes qui est tout à fait passionnant. Alors, il me semble que, puisqu'on est sur les rapports ville-campagne, entre les deux guerres, il y a une vision du rapport ville-campagne qui change. Les ecclésiastiques, par exemple, c'est très clair dans les archives des missionnaires, catholiques comme luthériens, si on prend les luthériens de Tanzanie. D'autre part, le genre de personnage qu'a étudié mon voisin, c'est-à-dire ces agrariens, hein, les enseignants locaux, leur vision de la ville devient négative, alors que la vision de la ville comme lieu de lumière, des lumières, comme lieu de l'école, de la scolarisation, était une vue très positive. La ville était une sorte de locomotive. Or, ce qu'on observe, c'est que la ville devient un lieu d'aliénation, de salariat très difficile, parfois de manifestations et de grèves, Kenya. Ensuite, c'est un lieu d'aliénation des femmes et c'est un lieu de misère humaine qui est décrit déjà entre les deux guerres d'une manière assez réaliste. Et les campagnes, à l'inverse, basculent dans l'opposé, c'est-à-dire la campagne est vue comme un lieu idyllique, un lieu où l'homme a toujours été socialiste sans le savoir. Et donc, dans cette utopie du socialisme rural, il y a à la fois les agrariens, comme on l'a dit, il y a les enseignants, il y a les missionnaires, il y a des milieux très variés, et ça touche même jusqu'au monde musulman, car si vous prenez les pays d'Afrique de l'Est, les cités swahili sont des lieux de lumière, et la campagne était vue comme très inquiétante, peuplée d'esprits, et le renversement aura lieu de la même manière après-guerre. C'est-à-dire un renversement qui va positiver les campagnes et qui va au contraire porter un regard méfiant et inquiet sur les villes. Voilà, ça me paraît une piste intéressante à creuser.
Ah, peut-être pour ouvrir la discussion avec la salle, on pourrait commencer par les questions à Maria Benedita Basto, parce que ben, je précise quand même que, pour pas qu'il y ait de déception après, que tu vas devoir partir dans quelques minutes, et donc soit les questions sont posées maintenant, soit plus tard, mais il y aura... Voilà, donc la discussion est ouverte.
Yeah, thank you very much for all these interesting lectures. I'm Sebastian Pampel from Humboldt University, Berlin, and I wondered what about the discourse on industrialization? Because you all stressed now the role of rural areas, but from my research, I had the impression that there was also an obsession somehow to get industrialization.
Tout juste un commentaire. En écoutant les citations des écrits de Cabral, j'ai eu l'impression que... Mais Cabral, c'est un écologiste avant la lettre.
Oui, tout à fait. C'est passionnant.
Et c'est pas très étonnant si on lit les passages de Marx dans le Capital sur son où il développe son concept de nature. C'est très proche.
Absolument. Absolument. Là, parce que j'ai coupé beaucoup de choses.
Oui. Alors, je précise aussi qu'il faudra poser des questions très rapidement pour Alexis, pour aller pour moi, qui va aussi partir très bientôt.
D'accord. Bon, bah alors, vas-y, réponds. Maria Benedita, c'est bon.
C'est bon ?
Oui.
Alors, c'est juste une question.
Donc, par rapport, oui, moi je suis évidemment, parce que j'ai beaucoup coupé et donc je n'ai pas parlé de toute cette partie écologie, mais c'est exactement ça. Et en tout cas, l'économie morale, elle a aussi un rapport très fort avec cette question de l'écologie. Par rapport à l'industrialisation, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce qu'elle ne se posait pas vraiment, sauf si vous voulez parler de mécanisation. Je ne sais pas si, parce qu'industrialisation dans le contexte des colonies portugaises et des mouvements de libération, en ce qui concerne Cabral, ce n'était pas vraiment sa préoccupation. Il avait une préoccupation, à mon avis, de ne pas de faire avancer la modernisation, parce que Cabral est quand même un peu différent des autres penseurs, que ce soit, ou même des autres stratèges, par exemple Samora Machel, qui est un stratège militaire mais qui a aussi essayé de produire un peu de discours idéologique, très différent aussi d'Edouard Mondlane, que peut-être lui serait plus dans une vision d'industrialisation, mais Cabral, je crois que c'est déjà son vécu au Cap-Vert et cette imprégnation avec la question de la terre et du sol et de l'érosion du sol et donc d'une répartition du sol, cette liaison entre économie du sol et bien-être et en même temps là-dessus la question du savoir et du pouvoir, je crois que tout ça était beaucoup, beaucoup plus important que, disons, il n'a pas vraiment... Il est un peu différemment de ce qu'on voit avec le Frelimo et avec l'MPLA aussi. La question de l'industrialisation, elle se posait moins. Mais il faut aussi voir le contexte de la Guinée, disons. Tandis qu'en Angola et au Mozambique, il y avait énormément de colons blancs. Et il avait un investissement énorme de la part de l'État portugais, surtout à partir du début de la guerre coloniale, avec une vraie industrialisation aussi et urbanisation rapide des villes, parce que les plus gros investissements du Portugal ont été faits justement à partir du début de la guerre coloniale, donc je répète, entre 61 dans le cas de l'Angola jusqu'à 74, le coup d'État au Portugal. En Guinée, la Guinée était vraiment le parent pauvre. Hein. C'était vraiment complètement abandonné. À part la capitale, il n'avait pas vraiment à se confronter avec cette présence et cette industrialisation un peu rapide, cette croissance économique qu'on avait vue grâce à une certaine autonomie que l'État portugais commençait à donner aux entreprises, aux grands groupes. Parce que c'est aussi dans les années 60, le moment où finalement le Portugal s'ouvre un petit peu à l'international, il entre dans l'EFTA parce qu'il ne pouvait pas entrer dans l'OCDE parce que ce n'était pas une démocratie, mais l'entrée par l'EFTA, donc par l'Angleterre, l'ouvre quand même un petit peu, et c'est aussi le moment où les grands groupes, finalement des grands groupes capitalistes, parce que Salazar n'était pas vraiment capitaliste au sens où l'on comprend le terme, donc les grands groupes comme l'Espíritu Santo ou Jean Palimo, des gens comme ça, commencent à vraiment à créer tout un ensemble de, disons, des démarches capitalistes qui va avoir beaucoup de choses à voir avec l'Angola, le pétrole, les diamants, tout ça. Donc, mais ça, rien de ça existait en Guinée. Donc je crois que là, disons, voilà, c'est ce que je peux répondre.
Peut-être d'autres questions ?
Oui, Mario de Fouéré, je travaille sur la Tanzanie. J'étais un petit peu. Alors, la question, je trouve la question de l'adhésion, elle est fondamentale. Et du coup, j'étais quand même un petit peu étonnée des réponses qui ont été faites parce que, pour parler de le cas de la Tanzanie, il y a un ouvrage, l'ouvrage de Goran Haydn, qui a évidemment marqué toute la. Enfin, qui a marqué la littérature tanzanienne sur la Tanzanie et qui a lancé des débats incroyables. Je me demandais quand même si vos pays sur lesquels vous travaillez, il n'y a pas eu. Ce type d'ouvrage qui retourne aussi complètement la question dans les approches quasiment enfin épistémologiques même du socialisme, à savoir de pas uniquement regarder du côté de la production, du côté des acteurs, des intellectuels qui ont pensé et mis en place tout un ensemble de politiques publiques et de mesures, mais aussi du côté du versant de ceux qui étaient en quelque sorte les récepteurs, donc côté de la réception de ces politiques. Sachant par ailleurs, alors après on est d'accord ou pas avec Haydn et ce qu'il va nous dire de cette paysannerie tanzanienne non capturée, mais qu'en même temps, la finesse de ce type d'analyse, c'est aussi de ne pas dire il y a eu adhésion ou pas, mais c'est montrer qu'au fil du temps, que la manière dont l'Ujamaa, quand il est mis en place en 67, 68, 69, au début des années 70, en 75, tout ça change parce qu'en même temps, les politiques changent, les façons de faire évoluent. En fonction des régions de Tanzanie, on a aussi des manières de recevoir l'Ujamaa de manière très différente. Et enfin, on a aussi une paysannerie qui n'est pas justement une espèce d'entité comme j'ai un petit peu le sentiment dont on parle ici. Il y a toute une réflexion sur les classes de Koulak, il y a toute une structuration même au sein de ces mondes ruraux qui fait qu'on ne peut pas dire il y a-t-il eu adhésion totale d'une paysannerie comme entité. Donc je trouve que. Et je voulais savoir, sur le Mali, sur l'Éthiopie, est-ce qu'il y a une littérature aussi qui a alimenté les débats internes sur la question de comment s'est passé le socialisme et comment il a été perçu, reçu ?
Rapidement, sur l'Éthiopie, c'était l'idée...
J'ai une question pour Alexis. Romain Tiquet, c'était juste une question en fait, pour reprendre la réflexion de François Raison sur le faux centre ville-campagne, si en fait il n'y a pas une sorte de perversion un peu de l'idéal socialiste par une administration en fait qui en fait se bureaucratise, se technocratise et qui reste en ville et qui impose des sortes de formes d'encadrement à des masses rurales qui sont au final les seules à se sacrifier pour la construction nationale. Et je veux savoir si tu pouvais pas évoquer par exemple pour le Mali des formes d'encadrement comme les programmes de retour à la terre, le mouvement pionnier, les services civiques, les programmes d'investissement humain qui, à mon sens, moi, sont des formes un peu autoritaires pour la construction nationale et de voir un peu ce cheminement-là.
Merci. Moi, j'ai une question pour Sabine et qui va un peu dans le sens de ce que Mario de Fouéré disait. C'est-à-dire, alors, il y a une rhétorique... Il y a des structures d'encadrement. Et moi, en travaillant sur les femmes sous le DERG, je vois bien que même si les associations de femmes révolutionnaires, si on lit que la femme, par exemple, il va nous dire que c'était juste pour encadrer les femmes, les forcer à aller faire des manifs et leur faire moudre du grain pour l'armée qui se battait en Érythrée. Mais en fait, quand on fait des entretiens avec les femmes, on se rend bien compte qu'elles ont investi ces lieux, elles s'y rendaient, elles discutaient de leurs problèmes. Et tous les témoignages que j'ai, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il fallait se battre pour nos droits. Même si on était extrêmement contrôlé et extrêmement... la rhétorique peut fonctionner. Donc la question que je voulais te poser, c'est est-ce que... Alors le DERG, enfin le régime socialiste, avait... alors je sais que tes recherches portent plus sur la période actuelle, mais est-ce que pendant tes enquêtes, tu peux dire non, mais est-ce que tu as des indices dans tes enquêtes ? Le DERG avait un discours d'émancipation des paysans. Donc est-ce que des paysans ont pu à certains moments utiliser les shingos pour avancer des revendications parce que tu as dit que ça a servi à les contrôler, mais est-ce que tu as pu observer des tensions aussi au sein de ces parlements? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà.
Bien, moi je suis Théophile Charinon, chercheur au CAPED au Cameroun à Yaoundé. Donc ma question aussi s'adresse à Sabine. Je suis juste curieux de savoir par rapport à la typologie des sentences s'il y a eu, puisque j'ai vu que à la suite du résumé de votre communication que vous avez travaillé dans le cadre d'une étude de terrain économie de la peine et de la punition en Afrique, Est-ce qu'il y a eu, quelle est la typologie des sanctions? Est-ce que ces sentences ont été continuellement adaptées dans le processus de recomposition du Tchengo? Voilà, merci, c'est ça ma question.
Je démarre alors. Je vais essayer de répondre un peu de manière croisée à la question de Romain et de Marie-Aude. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une littérature énorme dessus? Non, il n'y a quasiment rien sur la période socialiste et sur les questions agricoles. Je parle de littérature scientifique, hein, non, il y a quasiment rien. Il y a quand même un article de Jean-Louis Hemsel sur la révolte de Wélessé Bougou en 68 et qui là montre bien quand même que il y a eu plutôt un rejet là, manifestement assez massif de cette politique agricole, en tout cas dans la zone, même s'il y a plusieurs critères, plusieurs raisons croisées qui ont joué dans cette révolte paysanne en 68. Sur Haydn, c'est pas du tout une référence pour moi. Je trouve au contraire qu'il recycle une partie de la pensée agrariste un peu romantique sur les zones rurales. L'économie de l'affection, moi, ça m'a, voilà, j'adhère pas du tout à cette lecture qui a été pas mal critiquée. Mais quand même, pour essayer de faire aussi un lien sur la question d'adhésion. En fait, et la rejoindre avec la question du fossé ville-campagne, de la bureaucratisation, de la technocratisation. Il ne faut pas prêter trop de pouvoir à la bureaucratie malienne dans les années 60 et à l'État malien en général sur les zones rurales. L'implication effective de l'encadrement administratif en zone rurale est très faible. Par exemple, il devait être recruté 2000 personnes pour encadrer les politiques agricoles. Il y en a eu 250. Il n'y avait pas, à mon avis, un maillage très suivi, voilà, administratif, suffisamment fort sur le territoire. Il n'y avait pas assez de gens formés pour essayer d'imposer des choses de manière très autoritaire. Le service rural, bon, il y en a eu, mais en fait, ce n'est pas massif. L'investissement humain, il y en a eu, mais là aussi, il a pu être détourné de ses fonctions premières ou autres. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il faille prêter. Il y a peut-être ce fossé. À creuser, moi je le questionne toujours, hein. Je ne suis pas sûr qu'au Mali on puisse faire un fossé énorme, je vous dis, aussi fort ruraux-urbain, pardon. J'essaie de ne pas être trop long. Oui, et aussi du coup ça rejoint aussi la question de l'adhésion ou pas. Pour que les paysans maliens puissent adhérer à une politique, il aurait fallu qu'ils envoient vraiment les formes, et en fait on leur a un peu dit créer des coopératives et débrouillez-vous avec. Gens se sont je caricature un peu, mais et du coup on a pas mal laissé les notabilités locales gérer ces structures, et c'est pour ça qu'elles n'ont pas été collectivistes. Ensuite il n'y a pas eu de réforme foncière comme ça a pu être le cas peut-être en Éthiopie. Il n'y avait pas de grands propriétaires terriens, il n'y avait pas une pression foncière énorme, donc il n'y a pas eu une réelle redistribution de la terre dont des paysans auraient pu voir les bénéfices, par exemple. Donc du coup ils ont peut-être eu du mal aussi à adhérer à ce projet-là, dont ils ont vu que les formes peut-être les plus coercitif finalement, ou alors de laisser faire, quoi. Voilà.
Ok. Alors, l'objectif de ma présentation, c'était vraiment de proposer cette incarnation du projet socialisme dans une construction institutionnelle et dans l'évolution de cette construction institutionnelle. Donc, bien entendu, la paysannerie apparaît dans la production institutionnelle comme un corps uniforme, etc., ce qu'elle est absolument pas, d'autant moins en Éthiopie, que la question socialiste est très orientée et par la question nationale et aussi par la question ethnique. Et c'est là où toutes les lectures, toutes les analyses sur soit l'adhésion paysanne par le bas, spontanée, populaire, etc., va être très biaisée, à mon sens, par des enjeux d'identité ethnique, voire des enjeux plus ou moins sécessionnistes, etc., selon le moment où elles seront produites. Donc je vois pas d'analyse qui fasse vraiment référence et qui permette de passer outre ce biais-là, d'autant plus qu'il est après souvent brandi comme une impossibilité à penser la paysannerie éthiopienne dans son ensemble, tant elle est marquée par des clivages agroécologiques, ethniques, culturels, etc. etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est assez difficile à traiter. Ensuite, sur la question de l'investissement de ces lieux de pouvoir, même s'ils sont très administratifs, par les locaux et de la potentielle émancipation paysanne. C'était aussi le but de la communication, de montrer qu'en dépit de ce caractère très artificiel, il y a une véritable réappropriation de ces espaces de parole, même s'ils sont très contrôlés et même si c'est une parole extrêmement codifiée. Sur le Shango proprement dit, franchement, je ne l'ai pas tellement vu. Maintenant, comme tu le dis, ça peut être un biais de mes enquêtes, tout simplement. Hein. En revanche, ça apparaît beaucoup plus dans la coopérative. Et là, on voit véritablement que les représentations de la les représentants des coopératives, particulièrement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, les trésoriers, peuvent être assez investis, justement, dans, une parole politique, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons, dans la volonté de porter une parole collective et de la transmettre, puisque en Éthiopie, c'est un peu comme ça que ça se joue quand même, aux échelons supérieurs.
C'est très intéressant ce sur quoi on est, parce que c'est ce que font les dominés avec des institutions qui leur tombent dessus, dont on leur dit qu'elles correspondent à leur nature profonde depuis des siècles, ce sur quoi ils sont assez dubitatifs, et qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Je trouve que c'est une question formidable.
On voit bien que ce petit tribunal qui... même est assez creux, c'est véritablement une administration d'enregistrement. Quand il s'agit de l'intégrer davantage dans une interface assez conflictuelle, les juges, ses membres, sont très très réticents. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce terrain, rarement, impossible de les interviewer dans leur bâtiment. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très sensible, et parce qu'ils conçoivent cette administration comme quelque chose d'assez... qu'ils ont véritablement investi, alors qu'en même temps, ils identifient très nettement l'héritage coercif, enfin, violent de la période socialiste. Sur la question des sentences, ben, c'est exactement ça. Hein. On a évolué du Shango, du tribunal paysan, du Derg, qui est, pour ce qu'en disent les paysans aujourd'hui, très très connotés par des actes de violence, des limogeages, des enquêtes morales, etc. C'est des procédures qui sont toujours plus ou moins en vogue, enfin pratiquées dans les campagnes éthiopiennes, mais qui là l'étaient de façon beaucoup plus violente et surtout qui conduisaient à des arrestations. Et de fait, le régime actuel a retiré à ces tribunaux-là tout le volet exécutif pour se restreindre en fait à quelques petites amendes, etc. Donc la dimension exécutive reste à la police locale et plus encore à la milice, qui est aussi une autre de ces institutions révolutionnaires qui fait le quotidien en fait des paysans aujourd'hui encore et qui prend racine dans ce projet socialiste.
Je prends la parole pour souligner le fait que les mouvements de libération ont abouti à une libération formelle, alors que les populations étaient à un niveau extrêmement mauvais du point de vue compréhension, communication. Et dans le cas précis du Mali, le jour de l'indépendance, il y avait 2% de personnes alphabétisées. 98% de la population était analphabète. Ensuite, on avait comme moyen de communication une radio qui n'allait pas au-delà de 30 km dans un espace où il y a 1 240 000 km de superficie. Troisièmement, il y a le fait que l'encadrement était... du point de vue de son niveau d'instruction assez bas. Je suis parmi les 10 seuls enseignants bacheliers à cette période-là, dans toute la République du Mali. Il y avait 2 médecins, il y avait 3 vétérinaires. Donc avec cela, mobiliser les paysans, leur faire comprendre le projet qu'on a pour eux, la façon de gérer cela, ça prend du temps et ça se heurte à des difficultés monstrueuses. Et aussi, c'est ce qui a fait que la réflexion a duré et qu'en fin de compte, lorsqu'on s'est rendu compte des difficultés, on a dit, tiens, organisons un séminaire, mais auparavant, laissons parler les paysans sur le projet qui est là. On a commencé par des réunions au niveau du village pour arriver à un séminaire national. Et le processus a pris 3 mois, que dis-je, de février à mai. C'est en fin mai que le séminaire national s'est installé, a commencé à faire la sommation d'abord des discussions de base et la réflexion scientifique à propos de notre travail concret. Et il y a eu une autocritique que j'estime sincère, parce qu'on a dit, nous avons opté pour le socialisme, nous avons une population à 95% paysanne, et le socialisme n'a pas pénétré dans les campagnes, donc nous n'avons rien foutu. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas fait une analyse sérieuse de la société et de la production économique pour adapter à la société et à cette production les principes que nous prenons pour le développement de ce pays. Donc faisons cette analyse, faisons cette sommation et tirons-en les conclusions pour la stratégie et les tactiques à adopter pour le futur. Mais on était au mois de mai et au mois de décembre, nous avons été renversés par un coup d'État militaire. Nous n'avons pas eu le temps d'appliquer les bonnes conclusions que nous avons découvertes à ce moment-là. C'est ce qui est arrivé au Mali. Et encore aujourd'hui, je parle de ce séminaire, mais au Mali, aujourd'hui, vous allez vous interroger 100 Maliens. Il n'y en a pas deux qui peuvent vous dire qu'ils ont connu le texte de ce séminaire sur la coopération en milieu rural, c'est-à-dire l'attitude du pouvoir par rapport aux paysans. Or, quoi qu'on dise et quelle que soit la voie qu'on choisisse, quand on n'a pas le paysanat avec soi, on n'a rien du tout dans nos territoires, surtout un pays comme le Mali qui est un pays enclavé, intérieur, où Bamako, la frontière, est partout à plus de 1200 km d'un port de mer. Donc le problème de l'adhésion des masses, de leur information même simple et de leur compréhension, c'est fondamental pour le développement des pays africains. Et peu de travail a été fait dans ce domaine jusqu'à présent. Et on continue à gérer à partir de schémas, à partir de principes et à partir parfois même de copier-coller importés de d'autres espaces et de d'autres compréhensions de la société. Alors, ce qui fait que dans le cas précis du Mali, la principale maladie aujourd'hui politique, c'est la constitution malienne adoptée après une révolution le 26 mars 1991. Cette constitution-là est complètement inadaptée au Mali et les dirigeants maliens sont les premiers à l'ignorer. Alors, où on va ? Je m'excuse d'avoir un peu long, mais je voulais souligner cet aspect extrêmement important.
Il faut conclure.
Tu veux conclure ?
Ben, on avait dit 5 heures.
Non, en fait, le bus passe à 18 heures.
Attends, juste pour préciser, parce que je ne l'ai pas fait, que Alexis et Maria doivent sont obligés de partir, mais pour des bonnes raisons. Donc, il faut les excuser. C'est pour organiser la soirée de ce soir au cinéma. Donc, voilà, je suis désolée.
Oui, alors, j'ai eu l'occasion de travailler en Tanzanie. Et donc de voir comment fonctionnait l'université et puis d'avoir des contacts dans le milieu autour de Nyerere, en particulier une Indienne qui était parmi ses conseillères politiques. Bon. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que Nyerere, en visite à Paris, dans la période Mitterrand, c'était un homme qui avait un prestige extraordinaire et qui était séduisant. Et qui savait très bien entretenir une bonne image de marque de la Tanzanie. Bon. Ensuite, la conseillère politique indienne, elle est passée à Paris à plusieurs reprises à cette époque-là, et c'était aussi quelqu'un de très malin, très astucieux, et qui entretenait un réseau de soutien à l'image de Nyerere. Un jour à Paris 7, on a invité, dans le cadre de la venue d'une série de collègues britanniques qui allaient aux hautes études, on a eu l'occasion d'avoir Terence Ranger parmi nous. Bon, alors c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les résistances primaires à la colonisation et sur
la Rhodésie coloniale, etc. Et que j'appréciais beaucoup. Bon. Alors, on le met sur le chapitre de la Tanzanie. Et alors, il déclare tout de go, c'est un régime terroriste. C'est un régime qui opprime les paysans à un degré inimaginable. Amené, ça a dû se passer en 1975, je pense ça, 13-15, amener les paysans à quitter leur lieu d'implantation pour 40 km de là, parce qu'on veut faire une école et parce qu'on veut faire un point d'eau, ça s'appelle du terrorisme. Alors, il y a eu un froid, évidemment. Et ça m'intéressait d'autant plus que Ranger avait fait partie de l'équipe de Dar es Salaam, des historiens de Dar es Salaam, c'est-à-dire des gens qui étaient des progressistes politiquement et qui, au démarrage, avaient soutenu Nyerere. Voilà. Hein. Bon, alors, ça donne le sentiment qu'il y aurait beaucoup à creuser sur toutes ces choses-là. Goran Eden, mais il y a eu d'autres choses encore après, il y a eu d'autres textes, il y a des concepts qui ont été appliqués à la Tanzanie successivement et qui pourraient fournir objet à une méditation sur la manière dont sans arrêt on construit sur le monde rural, hein, mais pas forcément en complétant ça avec des enquêtes ou en partant d'enquêtes, pas forcément. Et je trouve que de ce point de vue, le travail d'Amilcar Cabral se détache complètement de ce qu'on a vu des formes de socialisme théorique ou intellectuel. Je pense que c'est vraiment, on pourrait dire, un homme de terrain. Quoi. Voilà.